Je lis pour vous.
Lecture vagabonde de Hélène Vignon sur Radio Alliance Plus. Lire, un plaisir qui se partage.
Hélène Vignon pour Radio Alliance Plus. Bonjour à toutes, bonjour à tous. La deuxième partie du livre « Jamais de trop, accueillir un enfant trisomique » avec la préface de Guy Gilbert et écrit par Denise Raymond, nous ouvre sur la naissance de Jérémy, le 30 décembre 1984. Une grossesse sans problème, mais un accouchement difficile. Puis, tout est devenu difficile. Tout est allé très vite, trop vite. Commençons donc notre lecture. Chapitre 1. Des débuts difficiles. La naissance. Attendu pour la fin janvier 1985, Jérémy est né le 30 décembre 1984. Je savais que ce serait un garçon, mais si la grossesse se déroula au mieux, l'accouchement se révéla particulièrement difficile. Malgré tout, j'étais heureuse d'être maman. Ensuite, tout se déroula très vite. On fit sortir mon époux de la salle de travail. Puis le médecin-chef vint me dire « Ne vous inquiétez pas, votre bébé a été une petite hernie ombilicale, mais ce n'est rien. » C'est seulement après m'être réveillée de l'anesthésie générale que je réalisais l'absence de mon bébé auprès de moi. Il se trouvait en couveuse dans le service de pédiatrie. Les premiers jours. C'est de mon fauteuil roulant que je découvris mon enfant. Je ne pouvais pas le toucher et pourtant il était si près de moi. Jérémy était sous perfusion. L'intervention chirurgicale n'avait pas encore été pratiquée. Nous signâmes l'autorisation d'opérer accompagnée d'une décharge. En fait, on nous faisait signer une décharge pour l'anesthésiste. Si nous ne signions pas, Jérémy n'était pas opéré. Il le laissait mourir. Ça n'est que le 1er janvier 1985 qu'eut lieu l'opération. Dans l'intervalle, l'infection avait progressé. Jérémy se montrerait-il plus fort que Dame Nature? Quelques jours après l'opération, j'allais voir notre bébé séparé de moi par deux épaisseurs de verre, l'une du box, l'autre de la couveuse. Afin qu'il ne bouge pas, il était attaché par un pied, suspendu avec de la gaze à l'une des parois de la couveuse. Il était également muni d'une sonde destinée à le gaver, de tuyaux, de pansements. Voir son enfant ainsi est insoutenable. C'était un déchirement d'aller le regarder, mais également de le laisser là. Lorsque je voyais les autres mamans, leur bébé dans les bras, je me retournais sur leur passage, essayant désespérément de partager un bonheur qui m'avait été volé, un bonheur auquel je n'avais pas eu droit et que je ne connaissais pas. Le cœur gros, les larmes aux yeux, je fuyais dans les couloirs pour aller rejoindre mon fils dans sa couveuse. Mon séjour à la maternité s'achevant, j'allais rentrer à la maison. Retour à la maison. Le mardi 8 janvier à midi, je franchis le seuil de la maison, seule et angoissée. Cet appartement me parut subitement immense et triste. Chose à ne pas faire pour ne pas ajouter de la souffrance à celle déjà présente, mais c'était plus fort que moi. Je pénétrai dans la chambre destinée à Jérémy. Le petit lit de toile jaune, le matelas allongé posé sur la commode dans laquelle étaient rangées brassières et autres petits vêtements que je caressais du bout des doigts. Les peluches attendaient patiemment d'être tenues dans ses petits bras. Bien sûr, tout était prêt pour l'accueillir et tout avait été fait avec tant d'amour. Le premier enfant, c'est si important. Ce que j'avais vécu s'était révélé bien loin de tout ce qui avait été dit lors des cours d'accouchement sans douleur. La première joie, j'aurais dû la ressentir à la naissance et dans l'instant suivant. Ce ne fut pas le cas. J'avais tellement rêvé de cet enfant, de la fierté de donner la vie, de la joie de serrer mon bébé tout contre mon cœur. Il est tellement merveilleux de donner la vie que de voir se séparer de son enfant est un véritable déchirement. J'avais l'impression d'être une intruse dans ma propre maison. Le séjour en pédiatrie. Tous les soirs, nous allions voir Jérémy. Néanmoins, l'accès à la couveuse nous restait interdit. Le plus souvent, notre bébé dormait et était de dos. Nous le trouvions beau avec ses petits yeux en amande et pourtant, sa pauvre petite tête blonde, en peine de sucre, était largement rasée au-dessus des oreilles à cause des perfusions. Mais il m'avait séduit. C'était mon bébé. Peu de jours avant sa sortie, nous avons eu la chance qu'une interne nous autorise l'entrée du box à condition que nous respections les consignes d'hygiène et que nous venions uniquement le soir à l'heure du biberon. Enfin, nous pouvions embrasser notre enfant. Ce fut un moment de joie intense. Cependant, Marc se heurta à la fermeté d'une infirmière qui l'empêchait d'approcher son fils. Pourquoi ? Réellement, nous ne l'avons jamais su. Peut-être était-elle allergique à la trisomie et à tout ce qui lui était lié. Ainsi, un soir, alors que Jérémy s'était endormi dans mes bras en prenant son biberon, cette infirmière me dit « Il ne faut pas faire comme ça. La manière douce, ça ne marche pas. » D'une main, elle se saisit aussitôt de Jérémy et le tapa si fort qu'il se mit à hurler. Stupéfaite, sans voix, et pour qu'elle ne s'en approche plus, je refermais mes bras sur mon bébé. L'émotion passée, une explication s'imposait. Néanmoins, l'angoisse que cette infirmière m'interdise l'accès au box fut la plus forte et je m'abstenais de toute réflexion. Sans doute la psychologie de la mère et de l'enfant ne figurait-elle pas au programme suivi par cette infirmière ? Quelques jours plus tard, une plaque noire apparut sur la cheville gauche de Jérémy. La perfusion n'avait en effet pas tenu et avait provoqué une nécrose, la gangrène d'un tissu. Reste à savoir combien de temps s'était écoulé entre la perte du produit et le moment où l'on s'en était rendu compte afin de déterminer l'étendue des dégâts. Quoi qu'il en soit, le résultat désormais était bien là. L'enfant a gardé une cicatrice qui s'étend du coup de pied à la cheville. Jérémy n'avait vraiment pas besoin de ça. À la suite d'un rhume collectif, Jérémy fut placé sous antibiotiques et sa sortie retardée de 2 jours. Pendant ce temps, j'en profitais pour apprendre à faire son pansement. La cicatrisation se passait au mieux. Jérémy n'aurait certes pas de nombril, mais ça ne l'empêcherait pas de vivre. Enfin, le mardi 5 février 1985, après une dernière consultation, nous sommes rentrés à la maison. Mais avant que Jérémy ne sorte de pédiatrie, le service soignant nous avait réellement démoralisés. Nous aurions à faire face à une multitude de problèmes. Jérémy mangerait difficilement, serait pénible, dormirait très peu, pleurerait souvent. Bref, serait un enfant difficile à élever, avec un grand retard psychologique et moteur. La découverte de la maladie. Lorsque Jérémy était encore à l'hôpital et que je rentrais le soir à la maison après l'avoir vu, je ne cessais de pleurer. J'étais angoissée et je ne parvenais pas à me calmer. Je me posais de nombreuses questions, notamment sur le physique de mon bébé. À la question « Est-il normal ?», Je sentais bien qu'il y avait quelque chose, mais je n'avais aucune réponse. Notre retour à la maison n'apaisa pas mes angoisses. Au contraire, devant mon désarroi, Marc me dit « Tu sais, Jérémy est un petit garçon fragile. Il a subi une grave opération. Il n'avait qu'une chance sur deux de survivre. Nous allons devoir être très attentifs et patients. Il faudra l'aimer plus que tout autre enfant, car il est très sensible. » Je pleurais à chaudes larmes et je pressentais que le plus important n'avait pas été dit. Marc pleurait aussi, car son rêve d'enfant parfait disparaissait, laissant place à la trisomie. Le « qu'en dira-t-on » prenait le dessus, mettant à mal l'image qu'il voulait donner. Je ne l'avais jamais vu dans cet état. Il finit par me dire dans un souffle « Jérémy est un petit trisomique. » Plus de fierté à dire « j'ai eu un fils », ni à ses collègues de travail, ni à qui que ce soit. Et que dire des relations déjà difficiles avec sa famille ? L'un de ses frères s'étant même permis la remarque suivante « Il aurait mieux valu qu'il meure !» Contrairement à ma famille, qui malgré le choc, restait dans l'acceptation. Tout s'effondrait autour de moi. Je dois l'avouer, j'avais envisagé plusieurs possibilités, mais pas celle-là. La trisomie 21, je savais ce que cela voulait dire. J'avais côtoyé des trisomiques quelque temps avant mon mariage, dans un emploi que j'occupais au sein d'une maison pour personnes handicapées. Marc était plus consterné que moi, et pour cause, son égo avait été touché. C'est le lendemain de la naissance de Jérémy qu'il l'avait appris. Le pédiatre lui avait demandé d'attendre pour m'en parler, car j'étais trop fragile, trop épuisée pour affronter une telle épreuve. Combien cela avait dû être difficile pour lui de porter cette révélation tout seul. Il ne fera pas le deuil de l'enfant rêvé. Il ne l'acceptera jamais. Vivra à ses côtés sans prendre une part active. Bien sûr, je savais pertinemment que la trisomie est un accident chromosomique, mais cela ne m'empêchait pas de me torturer l'esprit avec des pourquoi et des comment. J'avais scrupuleusement observé toutes les règles et précautions à prendre lorsque je portais Jérémy. Paradoxalement, mon chagrin fut de courte durée, avec cette impression étrange de le savoir déjà. Une fois le choc de la nouvelle passée, tout le vécu à la maternité me revenait, justifiant ainsi le comportement de mon entourage. Entre autres, les questions sur mon âge, sur la santé du bébé ou encore le tire-lait que l'on m'avait posé et brusquement retiré. Toutes ces interrogations étaient formulées gentiment. Il s'agissait sans doute de savoir si je savais afin de ne pas commettre d'impair. De plus, sous prétexte de ne pouvoir m'apporter le soutien nécessaire, les personnes que j'aurais aimé voir s'étaient abstenus de me visiter. Ainsi, autour de moi, le secret avait été bien gardé. Le verdict. Ma foi mise à l'épreuve. En plus d'une omphalocèle, c'est-à-dire une malformation congénitale caractérisée par l'absence de fermeture de la paroi abdominale, elle se présente comme une hernie plus ou moins large à la base du nombril. En plus d'une omphalocèle, Jérémy était porteur d'une trisomie 21. Après l'annonce de la maladie, puis confirmée par un caryotype, analyse de sang plus précise, il n'y avait plus de doute. Mon premier enfant était bel et bien handicapé. Au début, l'irrévocable fut difficile à accepter. Tous les trois, nous avons dû subir un examen sanguin, un caryotype. Jérémie afin de confirmer sa trisomie 21, et nous parce qu'il était important de savoir s'il s'agissait d'un accident chromosomique ou si c'était héréditaire. Une fois les formalités d'usage terminées, l'entretien avec le pédiatre pouvait avoir lieu. L'attente ne fut pas longue. Le verdict fut confirmé. Trisomie 21. Sans appel. Certes, le pédiatre avait les résultats médicaux entre les mains, mais au tréfonds de nous, nous avions conservé un espoir. Cette fois, c'était bien fini. Par la suite, nous avons rencontré le généticien à propos de nos propres caryotypes. Il nous conseilla vivement d'avoir d'autres enfants, dans la mesure bien sûr où nous le désirions. Le professeur nous expliqua également, dans les grandes lignes, comment grandirait notre bébé, car, même trisomique, chaque enfant est différent. C'était là des propos bien rudes à entendre. Mais pour le professeur non plus, ce ne devait pas être évident de tenir un tel langage. Avant d'être médecin, n'était-il pas un être humain avec des sentiments? Néanmoins, dans ce genre de situation, il est important d'être bien clair afin de ne pas se faire de fausses idées. Mes questions nécessitaient des réponses franches pour que nous puissions partir sur de bonnes bases. Il était primordial de rencontrer des spécialistes compétents afin d'être assuré de connaître la vérité sur le problème présent. Ces personnes étaient prêtes à nous écouter, à nous aider, à répondre à nos angoisses. Cela pouvait paraître insignifiant, mais c'était en fait un immense soulagement. Savoir que, sans le déranger incessamment pour autant, quelqu'un était disponible pour nous, cela était plutôt rassurant. Mon premier enfant était bien handicapé. Là, pas de question du genre « qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir un enfant différent ?» C'est injuste et cruel, mais Dieu ni personne n'est en cause. Si cette question ne m'a pas effleuré l'esprit, il n'en était pas de même pour les autres. J'avais plutôt l'impression de le savoir. Cette nouvelle n'était ni bonne ni mauvaise. Je l'acceptais telle qu'elle. Ce n'était certes pas un hasard si j'occupais un poste auprès de personnes handicapées quelques mois auparavant. Je ne crois pas au hasard et je ne pense pas qu'il existe. Cependant, la foi, oui, elle existe. Premier pas de Jérémie. Trisomie ou pas, cela ne changeait en rien mes sentiments pour mon bébé. Je l'aimais déjà, dès sa conception, et ce sentiment croissait de jour en jour. Très sensible par nature, Jérémie l'est encore plus qu'un autre enfant, de par sa maladie génétique. Il a un très grand besoin d'amour et de compréhension de la part de son entourage. Cet enfant que j'avais tant désiré était déjà passé par des souffrances, non seulement l'opération subie 3 jours après sa naissance, mais aussi la séparation dès les premières minutes de sa vie, séparation qui s'était prolongée 1 mois durant. Comment ne pas être ému et débordant d'amour pour ce petit bonhomme ?
Thank you.
Le lien maman-bébé. C'est dans la rue que j'eus enfin l'impression de me réveiller. Je m'étonnais de croiser autant de poussettes. Avant, n'étant pas concernée, je n'y prêtais guère attention. J'observais les autres bébés à la dérobée, mais en revanche, je ne supportais pas que des regards étrangers se posent sur le mien. Je pensais que l'on ne voyait de lui que sa différence. Certaines personnes le dévisageaient avec une telle insistance que ça n'était indécent. Il m'arriva quelquefois d'avoir de petits accrochages verbaux. C'était plus fort que moi, et combien douloureux. En général, il semble qu'il est bien difficile pour les gens de regarder ses enfants de la même façon que les autres. Les trisomiques ont déjà assez à supporter leurs différences sans être en plus montrés du doigt. Toutefois, il ne faut pas non plus sombrer dans la paranoïa. Je ne cachais pas Jérémy, au contraire, je l'emmenais partout avec moi. C'était avant tout mon bébé et j'étais fière de me promener avec lui. Cet état de fait est d'ailleurs toujours d'actualité. Et il n'y a aucune raison pour que cela change. Chapitre 2. Croissance et évolution. Kinésithérapie. À partir de février 1985, Jérémy entama le début de ce qui devait être une longue série de séances de kinésithérapie. Pendant 6 mois et 3 fois par semaine, il était musclé de la tête aux pieds. Tenant sa tête droite, il s'appuyait sur ses mains afin de se redresser. Pour diverses raisons, Jérémy a connu 3 intervenants différents. Le second kinésithérapeute le faisait travailler d'une autre façon. Moins de massage, mais plus de travail sur les dorsaux, les abdominaux, sur la station assise et debout, du ramping, action de ramper, sur les réflexes et l'appréhension fine. Tout cela visant à la première grande étape du développement de Jérémy, la marche. Il était bien difficile d'évaluer les progrès de mon enfant car, comme Jérémy, je découvrais pas à pas la trisomie. Par la suite, Jérémy n'avait plus qu'une séance par semaine avec le 3e intervenant. Étant donné sa progression, ce rythme paraissait suffisant. La méthode ne différait guère de la précédente, mais après la marche, Jérémy était passé à l'étape supérieure. Outre les traditionnels abdominaux dorsaux, le kinésithérapeute effectuait avec lui un travail de précision, équilibre, trampoline, espalier et autres matériels adéquats, jeux de balles, de ballons. Jérémy s'est toujours bien entendu avec ses différents professionnels. Bien que le premier fût une femme et les 2 autres des hommes, leur approche différente n'a en aucun cas amoindri son appétit de progrès ni même perturbé son évolution d'enfant trisomique. La kinésithérapie a essentiellement pour but de vaincre au maximum l'hypotonie. L'hypotonie est une diminution de la tonicité musculaire. Le travail musculaire est donc très important. Les abdominaux et les dorsaux doivent être travaillés en parallèle et avec assiduité. Il est en effet impératif d'éviter tout problème de scoliose, la déviation latérale de la colonne vertébrale. La lordose, déviation de la colonne vertébrale avec convexité antérieure, et la syphose, déviation à convexité de la colonne vertébrale. De plus, tous ces efforts permettent d'acquérir le sens de l'équilibre et de la marche. Ils ne sont donc pas vains. Le kinésithérapeute pratique également la rééducation psychomotrice. Psychomotricité, conjugaison des fonctions motrices et physiques, c'est-à-dire, pour simplifier, qu'il s'agit des rapports entre mouvement et pensée. Celle-ci s'avère être un complément non négligeable, puisqu'elle est, par la suite, utilisée par l'orthophoniste pour le langage et l'écriture. Néanmoins, l'obtention de résultats satisfaisants est conditionnée par le besoin, la bonne volonté et la disponibilité que manifeste l'enfant. Celui-ci doit par conséquent être comblé sur le plan affectif afin de prendre confiance en lui et de manifester le désir de progresser. Jérémie s'entendait très bien avec le dernier kinésithérapeute. Gentillesse et fermeté donnent de bons résultats. Homéopathie. Jérémie est également suivi par un homéopathe très compétent depuis sa plus tendre enfance. Régulièrement, il lui prescrit un traitement pour le développement physique et mental. Ainsi, Jérémie évolue normalement. Son évolution s'effectue par paliers. Néanmoins, son apparente stagnation pendant certaines périodes ne veut pas dire qu'il n'apprend rien. En fait, il enregistre tout, mais fait preuve d'inertie. La bonne période de Jérémie est relativement longue. Quant à la mauvaise, bien qu'elle ne dure qu'environ un mois, elle semble pourtant interminable. Toutefois, le plus petit progrès est à noter. Grâce à la conjugaison de la kinésithérapie, de l'orthophonie et de l'homéopathie, le retard psychomoteur et l'hypotonie de Jérémie sont en partie résolus. Mais bien sûr, un enfant trisomique reste différent d'un enfant normal. À 10 ans, Jérémie a 3 bonnes années de retard au niveau intellectuel par rapport à son frère Jean-Baptiste qui, lui, n'a pas encore 9 ans. Sur le plan physique, par contre, il n'est pas en retard. Il a toujours fait ses nuits sans problème et mange à la cuillère depuis l'âge de 3 mois. Jérémie n'a pas de problème cardiaque, pulmonaire ou autre, et pour le moment, l'omphalocèle ou hernie ombilicale n'est pas spécifique à la trisomie 21. Jérémie n'a simplement pas eu de chance de cumuler les deux. Pour le moment, donc, l'omphalocèle n'a provoqué aucune complication. Toutefois, à la suite d'un affaissement récent important des voûtes plantaires, il doit porter des semelles orthopédiques et suivre un régime amaigrissant. Pour cela, j'ai sollicité un peu d'aide de la part de l'homéopathe, car mettre un enfant au régime n'est pas simple, d'autant qu'il prend le repas de midi à la cantine. Mis à part une varicelle contractée au contact de son frère et de sa sœur, les maladies infantiles ne semble pas l'atteindre. Par contre, il est souvent enrhumé. Heureusement, l'homéopathie enraye le rhume avant qu'il ne se transforme en angine ou même en bronchite. En 10 ans, Jérémie n'a eu qu'une seule bronchite. De par l'épicanthus, repli cutané siégeant à l'angle interne de l'œil, de par l'épicanthus, au moindre froid, à la lumière intense du soleil ou même encore à la simple prise d'une boisson fraîche, ses yeux pleurent. Afin d'éviter tout trouble physiologique, Jérémie a uniquement reçu les vaccinations obligatoires. Sur avis du pédiatre, homéopathe, le BCG et le ROR ne lui ont pas été administrés. Pendant une période, Jérémie ne répondait pas à son prénom. Et à l'exception d'une otite, la tympanométrie, l'examen du tympan, effectué n'avait décelé aucun signe de surdité. Elle avait certes signalé que Jérémie avait de grosses amygdales, des conduits auditifs extrêmement étroits et un voile du palais court. Observations dont quelques-unes seulement sont attribuées à la trisomie. Il s'avéra donc en conclusion que si Jérémie ne répondait pas, c'était tout simplement pour qu'on le laisse tranquille. Il est également atteint d'une astigmatisme myopique, un défaut optique nécessitant un suivi régulier. Il porte également des lunettes depuis 5 ans, mais seulement en classe, pour lire, écrire et aussi pour regarder la télévision. En fait, il sent parfaitement quand il doit porter ses lunettes et il les met donc de lui-même, sans contrainte. Pour un enfant, ce n'est pas facile d'être pourvu d'une paire de lunettes du jour au lendemain. Néanmoins, Jérémy a choisi sa monture et comme il n'en avait pas un besoin urgent, il n'a pas été bousculé. Cela l'a conduit à les porter volontairement. Petit, Jérémy passait une visite médicale tous les 3 mois, mais désormais, une visite bisannuelle est suffisante. En grandissant, Jérémy n'a plus ses paliers progression-stagnation. Le travail est plus régulier, mais il sait nous faire comprendre lorsque cela devient trop contraignant. Lorsqu'il est fatigué, le généraliste donne son diagnostic et l'homéopathe me prescrit l'équivalent des médicaments en homéopathie. Le système fonctionne très bien et est d'ailleurs appliqué au reste de la famille avec succès. Les antibiotiques sont utilisés en dernier recours. Comme pour toute autre médecine, je pense que ce qui compte en homéopathie, c'est la confiance que l'on place en celle-ci et en la personne qui l'exerce. Elle a l'avantage de ne pas être nocive et touche seulement l'organe ou la partie du corps à soigner. Évidemment, l'efficacité du produit dépend de la façon dont on suit le traitement. En général, Jérémy suit un traitement de fond qui ne donne pas de résultats spectaculaires, mais qui s'avère largement satisfaisant à long terme. Selon le cas, Jérémy a parfois besoin d'un traitement rapide et efficace afin d'éviter la prise d'antibiotiques. Aimer Jérémy, c'est aussi l'aider au mieux en choisissant ce genre de médecine. C'est un apport supplémentaire dans son évolution physique, physiologique et intellectuelle. Même si Jérémy ne présente pas de troubles apparents, n'est-il pas nécessaire de surveiller sa croissance ? Orthophonie. C'est en mai 1986 qu'eut lieu la première expérience. Ce fut un échec total. L'osmose n'était pas au rendez-vous. Entre l'orthophoniste et lui, rien ne passait. Sa voix forte impressionnait Jérémy. De plus, il connaissait déjà par cœur tous les exercices. Sans doute par réaction, ne voulait-il pas montrer ce dont il était capable ? Peut-être était-il aussi un peu jeune pour faire de l'orthophonie. Lors de la première séance, Jérémy s'est contenté de jouer tout seul pendant que je fournissais les renseignements nécessaires. La séance suivante, quant à elle, lui laissa une mauvaise impression. Le courant n'était pas passé. La troisième fois, l'orthophoniste entreprit de faire des exercices avec les doigts dans la bouche. Ah, triste résultat ! Jérémy bavait constamment. Elle lui fit ensuite tirer la langue. De mon côté, je m'évertuais à lui apprendre à la rentrée. En effet, à cause de l'hypotonie et de l'importance de la taille de la langue chez les enfants trisomiques, il est primordial de leur apprendre à la rentrée et à fermer la bouche. Sinon, le résultat risque d'être désastreux. La quatrième séance fut la dernière. Donc, rien d'extraordinaire. Pourquoi avoir attendu 4 séances avant d'arrêter ? Tout simplement parce que c'était nouveau pour Jérémy. Je pensais qu'il y aurait une progression positive, et ce ne fut pas le cas. Mais tout comme l'on pousse un enfant à ne pas rester sur un échec, je devais donner l'exemple, en faisant de même et en m'adressant à une autre orthophoniste. Ce fut bien différent. Le premier contact fut excellent et décisif. Jérémy a découvert les instruments de musique, appris à souffler, à encastrer des éléments et à regarder les livres d'images. Il fera de gros progrès de janvier à octobre 1987. Mais nous avons dû déménager, ce qui signifiait de nouveaux intervenants et de nouvelles adaptations. L'univers de Jérémy s'élargit avec la rencontre d'une nouvelle orthophoniste. Le contact est bon, mais Jérémy n'acceptera de parler qu'une fois qu'il aura reconnu les lieux et testé cette nouvelle personne. 3 ans durant, à raison de 2 fois par semaine, il a suivi ses séances. Là, il a appris à écrire, bien que le mot « écrire » ne soit pas tout à fait approprié. Disons plutôt qu'il a commencé à bien tenir un crayon, à former des lettres, puis à dessiner. Jérémy prononçait des mots qu'elle enregistrait afin de les lui faire ensuite écouter, où il émettait simplement des sons ou composait des puzzles. L'orthophonie est un travail de longue haleine. Certains exercices paraissent sans intérêt. Pourtant, ce sont les bases de l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Puis, ce fut la rupture. La cause en est simple. Je crois qu'une certaine lassitude s'était installée, surtout de la part de Jérémy. Il ne fournissait plus aucun effort, n'ayant pas le désir de faire quoi que ce soit. De plus, il avait trouvé un moyen infaillible de se libérer. Il jouait tout simplement au petit garçon fatigué, ce qui, soit dit en passant, ne fonctionnait pas avec les kinésithérapeutes. Mais l'orthophoniste, elle, n'insistait pas. Cela s'est renouvelé à plusieurs reprises. Indubitablement, l'ennui était réciproque. Et de ce fait, le pédiatre me conseilla fortement le changement. Ce fut très rapide et sans préavis. Il était urgent que l'on reprenne sérieusement Jérémy en main. Après réflexion, je pense que si l'orthophoniste avait fait preuve de professionnalisme, elle se serait très vite rendue compte du malaise latent et de ce fait m'aurait conseillé de trouver quelqu'un de plus adapté. En tant que maman, il m'appartenait d'être vigilante quant aux compétences et à la confiance que je portais aux intervenants professionnels. Et ce fut donc la 4e orthophoniste. Le changement fut bénéfique et les progrès immédiats. Progrès que l'on pouvait cette fois toucher du doigt. Quelle satisfaction ! Le travail effectué était le prolongement de ce qui avait été fait précédemment, mais au niveau supérieur. Malgré des hauts et des bas, Jérémy poursuivit ses séances avec assiduité et le sourire. Néanmoins, au bout de 2 ans et demi, la situation se dégrada et prit la même tournure qu'avec l'intervenante précédente. Les symptômes étaient identiques, pour ne pas dire pire. Le changement s'imposait à nouveau. Je me suis alors tournée vers la seconde orthophoniste qui s'était occupée de Jérémy à ses débuts. Je faisais certes quelques kilomètres de plus, mais les résultats obtenus en valaient la peine. Le retour chez cette intervenante a coïncidé avec l'entrée en CLIS de Jérémy. Elle a tout repris à la base et le stimulé à l'aide d'une nouvelle méthode de travail. Jérémy travaillait beaucoup mieux et se montrait plus attentif. De plus, constatant lui-même ses progrès, il s'auto-stimulait. Le travail scolaire avec les instituteurs, comme celui fait à la maison, se complétait et était bien sûr mené parallèlement avec l'orthophonie. J'essayais de poursuivre l'évolution de Jérémy dans la plus grande coordination possible. Ces différentes expériences ont montré, au risque de heurter certaines personnes, qu'il ne faut pas hésiter à changer afin de faire le bon choix, tout en respectant bien sûr les capacités de l'enfant, dont l'avenir est la priorité. Il ne faut donc jamais baisser les bras, ni penser au « qu'en dira-t-on ». Ce qui est primordial, c'est l'enfant et il faut faire ce qu'il y a de mieux pour lui. Dans cette fin d'épisode, suite à la découverte du verdict sans appel, Jérémy est porteur d'une trisomie 21, la foi de Denise Raymond est mise à l'épreuve. « Mon premier enfant était bel et bien handicapé », écrit-elle. Et un peu plus loin, elle dit « Trisomique ou non, cela ne changeait rien mes sentiments pour elle, pour mon bébé. Je l'aimais déjà, dès sa conception, et ce sentiment croissait de jour en jour. » Dans la suite du chapitre 2 croissance et évolution, elle explique les différentes branches de la méthode que la médecine a mis à sa disposition. Et bien d'autres choses après la kinésithérapie, l'homéopathie, l'orthophonie, bien d'autres choses seront présentées dans les épisodes suivants. N'oubliez pas d'écouter la suite. Radio Alliance Plus, dans l'émission Je lis pour vous. Vous trouverez aussi la brève de Je lis pour vous. Et vous présenterez tout cela avec les dictons et des citations ainsi que leur signification. Mais en attendant, à bientôt, chers auditeurs.